Hello tout le monde, bienvenue dans ce 27e épisode d'ActuVu, le podcast qui vous résume ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité cette semaine. Moi c'est Joséphine et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça faisait un petit moment que j'avais plus pris le micro ici. Avec moi en studio, Héloïse, Clément, Capucine, Juliette et deux premières années, Chloé et Tanguy. Et de l'autre côté de la vitre, Agathe gère bien la technique. Que vous passiez les concours aux écoles de journalisme ou pas, la team vous a concocté un bon petit programme sur mesure. En international, Héloïse, tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Et toi Clément en France ?
Bientôt les élections régionales, on fait le point en Ile-de-France.
Capucine en écho, ça donne quoi cette semaine ?
Je vais parler du plan de relance de Biden.
Et toi Juliette, côté sport et culture ?
On va parler Ligue 1 à 18 équipes.
Chloé, pour ta grande première, t'as de bonnes recommandations à nous proposer ?
À l'heure où les médias partent au combat contre les fake news, nous allons vous parler des sites de fact-checking.
Eh ben ça promet, mais on commence d'abord avec Tanguy pour ses débuts dans le fameux Afflux OT.
$800 milliards, c'est la somme perdue sur le salaire des femmes en 2020 à cause de la pandémie. Le chiffre avancé par Oxfam montre la forte exposition des femmes aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Avec les baisses d'activité partout dans le monde, leur emploi aurait reculé de 5%, des chiffres qui ne prennent même pas en compte l'économie informelle. C'est une première pour un président américain. Le 24 avril, Joe Biden a qualifié de génocide les massacres organisés par les Ottomans contre les Arméniens. Ses prédécesseurs évitaient une telle prise de position pour ne pas froisser la Turquie, pays allié. Le président turc Erdogan a déploré une ingérence politique dans des débats d'historiens. La cérémonie des Oscars 2021 a porté en triomphe le film Nomadland de Chloé Zhao. Le 25 avril, le film a remporté 3 statuettes, celle du meilleur long métrage, de la meilleure réalisatrice et de la meilleure actrice. Chloé Zhao est seulement la deuxième réalisatrice récompensée en 93 cérémonies, la première d'origine asiatique. L'édition est saluée pour sa diversité dans les films sélectionnés. Il était l'homme qui n'avait pas marché sur la Lune. Michael Collins, le troisième astronaute d'Apollo 11, est décédé le 28 avril à l'âge de 90 ans. Il était chargé de piloter le vaisseau dans l'espace pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin faisaient une randonnée lunaire. Moins célèbre que ses collègues, Collins était le vétéran de la conquête spatiale le plus actif publiquement. Le chef d'état-major des armées, François Lecointre, a demandé le 29 avril la radiation des militaires ayant signé la tribune des généraux. Publié le 21 avril dans Valeurs Actuelles, l'article s'inquiétait d'un soi-disant délitement de la France face à l'islamisme. Le général Lecointre, plus haut gradé de l'armée française, accusait les signataires de violer la neutralité de l'armée.
Keep America great!
How dare you?
Can't be do what we want to do.
Héloïse, cette semaine, tu reviens sur un conflit qui dure, celui qui oppose l'Ukraine à la Russie. Des négociations entre les deux pays pour une nouvelle trêve ont encore échoué. Mais que s'est-il réellement passé là-bas ?
Pour le comprendre, il faut remonter 8 ans en arrière. En septembre 2013, quand l'ancien président Viktor Yanukovych décide de se retirer d'un accord avec l'Union européenne au profit de la Russie. En réaction, des manifestations éclatent dans le pays. Le 21 février 2014, Viktor Yanukovych fuit la capitale ukrainienne. Il est destitué et l'Assemblée nomme un président par intérim. Mais les régions de l'Est de l'Ukraine, qui sont majoritairement russophones, s'y opposent, et pour les contrer, le Parlement retire aux Russes son statut de langue officielle secondaire. Il faut savoir que 17% de la population ukrainienne est d'origine russe, notamment à l'Est du pays.
Et c'est donc ça qui met le feu aux poudres.
Quelques jours après, le 27 février, des dizaines de militaires russes prennent le pouvoir en Crimée, cette péninsule au sud-est de l'Ukraine. En annexant la Crimée, Vladimir Poutine va à l'encontre des principes de l'ONU. Depuis 1945, l'Organisation mondiale des Nations unies interdit l'agression entre États et les guerres de conquête. Mais vu que la Russie siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il suffit que le pays mette son veto à chaque fois que les Nations unies tentent de le condamner, et comme ça, personne ne peut déloger l'armée russe de Crimée.
Donc la Russie est en place en Crimée, et le conflit peut donc commencer.
Oui, voilà. Et s'ensuit une escalade de révolte dans la région orientale de l'Ukraine, au Donbass. Cette région est frontalière à la Russie. La guerre du Donbass oppose les Ukrainiens pro-russes soutenus par la Russie et l'armée ukrainienne. Depuis 2014, cette guerre a fait plus de 13 000 morts.
Et le conflit dans le Donbass ne s'est pas arrêté depuis.
Et il s'est même intensifié parfois. De nombreux cessez-le-feu ont été mis en place depuis, mais en vain. L'élection de Volodymyr Zelensky a permis de faire avancer les négociations. La dernière trêve date de juillet 2020, mais depuis, les deux armées s'accusent mutuellement de violer le pacte. Depuis le début de l'année, les affrontements se sont intensifiés. Kiev accuse Moscou de masser des troupes à ses ses frontières. Depuis quelques semaines, la Russie répond que ce sont de simples exercices militaires sans danger. Les pays d'Occident, menés par les États-Unis, dénoncent une stratégie d'intimidation, des alliances renforcées qui n'enchantent pas Vladimir Poutine, comme l'explique Alexandra Goujon, politologue spécialiste de l'Ukraine sur France 24.
Biden a eu des mots assez durs à l'égard de la Russie, et donc la Russie se repositionne en quelque sorte et montre que son voisinage reste sa chasse gardée, alors même que l'Ukraine a inscrit dans sa constitution maintenant l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN comme étant des objectifs.
Le 22 avril dernier, le ministre russe de la Défense a annoncé un retrait partiel des 130 000 soldats massés le long de la frontière ukrainienne, mais aucune nouvelle trêve ne voit le jour. Les consultations se poursuivent encore entre les deux pays.
Et sinon, au Cap, en Afrique du Sud, l'une des plus importantes bibliothèques d'Afrique a été détruite par un incendie.
Oui, le feu qui s'est déclenché dimanche s'est propagé jusqu'à la prestigieuse université du Cap, ravageant la Jagger Library qui abritait près de 85 000 ouvrages et documents. Dans le pays, la mémoire de la colonisation et de l'apartheid y est très importante et cela passe par la conservation des archives. Pour l'instant, les pertes n'ont pas encore été estimées, mais la salle de lecture aux grandes colonnes de pierre construite dans les années 1930 a, elle, été totalement dévastée.
La République, c'est moi !
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Et ils sont là ! Ils sont dans les campagnes !
Parce que c'est notre projet !
Clément, cette semaine, tu t'es penché sur les élections régionales en Île-de-France. La liste des prétendants semble arrêtée. Et dans ce scrutin, un candidat inattendu a fait son entrée mercredi dernier.
Édition spéciale sur LCI poursuivre ces rassemblements qui ont lieu.
Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà reconnu, l'ancien présentateur et journaliste de LCI, Philippe Ballard, a tourné le dos le week-end dernier après de 40 ans de carrière dans les médias pour se lancer en politique. Il a décidé de rejoindre la liste du Rassemblement national aux élections régionales d'Île-de-France. Invité sur le plateau de CNews, l'ex-journaliste explique les raisons de sa candidature.
Et ça fait quelques dizaines d'années, j'ai traversé de multiples rédactions, que j'observe un lent déclin de mon pays, qui est submergé par une vague migratoire incontrôlée. Il y a le communautarisme qui se développe, il y a une insécurité grandissante.
Il retrouve dans l'arène politique une ancienne collègue. Pendant une dizaine d'années, ils avaient ensemble présenté les journaux sur LCI. Il s'agit d'Audrey Pulvar, engagée en politique à la mairie de Paris. Elle sera la candidate des socialistes, même si elle n'a pas sa carte au parti.
Et pour l'actuelle présidente de la région, Valérie Pécresse ?
Eh bien, sans surprise, elle a officialisé cette semaine sa candidature pour sa succession. Celle qui a quitté les Républicains en 2019 pour fonder son mouvement libre a reçu le soutien de son parti d'origine. Conséquence, face à elle, aucune candidature LR. Côté La République En Marche, son nom ne doit pas vous dire grand-chose. Il est député du Val-de-Marne et rapporteur général du budget à l'Assemblée. Joséphine, tu vois de qui je parle ?
Non.
C'est Laurent Saint-Martin. Il y a quelques semaines, il n'était encore que le bras droit de Jean-Michel Blanquer dans la préparation des régionales, mais en janvier, il a officiellement déclaré prendre le relais du ministre. Pour le soutenir dans la campagne, il y aura comme numéro 2 la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, et en tête de liste dans le secteur de Paris, Marlène Schiappa, ministre en charge de la citoyenneté.
Mais le premier candidat à s'être officiellement déclaré, c'est Julien Bayou, secrétaire général national de ELV.
Oui, en août dernier, et depuis, Julien Bayou a reçu l'approbation des militants verts. Et côté France Insoumise, c'est Clémentine Autain qui a été désignée. Elle est soutenue par les communistes.
Des procédures d'extradition visant 10 anciens membres des Brigades Rouges ont été émises par la justice française. Mais au fait, c'est quoi les Brigades Rouges, Clément ?
De la fin des années 60 aux années 80, l'Italie connaît les années de plomb, une période d'extrême violence marquée par des assassinats et des attentats. Sous couvert de lutte sociale, un groupe dissident du Parti communiste se fonde pour prendre les armes. Ce sont les Brigades Rouges. Beaucoup vont trouver refuge en France sous la présidence de François Mitterrand. Ce dernier les accepte qu'à condition qu'il n'ait pas commis de crimes de sang. Depuis plusieurs années, l'Italie demandait l'extradition de 200 ex-membres de l'organisation vivant dans l'Hexagone. La justice italienne a condamné par contumace les 10 ex-brigadistes pour des meurtres.
Et hier, 7 personnes ont été relâchées sous contrôle judiciaire, tandis que deux autres se sont rendus à la police. Enfin, dans le reste de l'actualité en France, la présentation d'une nouvelle antiterroriste parmi les propositions, utiliser les algorithmes.
Oui, Joséphine, assiste-t-on à la mise en place d'un état Big Brother ? Objectif, croiser les signaux faibles de radicalisation. Concrètement, les algorithmes vont pouvoir suivre et dire quel message a été envoyé à qui et à quelle fréquence. On parle par exemple de personnes qui se radicalisent sur Internet en allant sur des sites prônant la violence. Le contenu et l'identité de celui qui envoie le message seraient couverts et anonymisé dans un premier temps, il faudrait une menace caractérisée pour que les enquêteurs aient accès aux données. Autant te dire que les défenseurs d'un Internet libre sont vent debout contre l'utilisation des algorithmes pour les services de l'État.
Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Cette semaine, le président américain a passé le cap des 100 jours au pouvoir. Pour fêter ça, il a respecté la tradition de faire un discours sur la colline du Capitole et il a notamment présenté aux Américains son plan de relance. Tu nous le résumes, Capucine ?
Oui, Joe Biden s'est exprimé pour la première fois devant le Congrès jeudi soir. Après un début de mandat intense qu'il a plutôt bien géré, le président américain a affirmé sa volonté réformatrice, en particulier en matière fiscale. Il a exposé son projet pour les familles américaines. C'était l'une de ses promesses de campagne et c'est un plan très ambitieux et historique. En fait, il souhaite débloquer 1800 milliards de dollars pour l'éducation et l'aide aux familles. Ce sont des aides pour les gardes d'enfants, le paiement par l'État des droits d'inscription dans certaines universités, la lutte contre la pauvreté et les aides aux familles seules. Ces mots, captés et traduits par l'émission de C'est dans l'air, sont assez forts.
Dans 50 ans, quand les gens regarderont en arrière, ils se diront que c'était le moment où ensemble, nous avons gagné l'avenir de l'Amérique.
C'est bien gentil, mais il compte financer ça comment ?
Le démocrate propose d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches que Trump avait fait voter. Il propose justement d'augmenter de 37% les impôts sur le revenu du capital pour les contribuables américains gagnant plus $1 million par an.
T'as quoi d'autre dans l'actualité économique ?
J'ai décidé assez arbitrairement de vous rappeler le classement des personnes les plus riches du monde. Donc selon le classement Forbes 2021, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est toujours numéro 1. Il possède une fortune de 177 milliards de dollars. Le patron de Tesla, Elon Musk est en deuxième position avec 151 milliards de dollars. La grosse fortune de Bernard Arnault est placée en troisième position, c'est donc le premier Français le plus riche du monde. 150 milliards de dollars, il a quasiment doublé sa fortune depuis l'année dernière. Il a été super performant en bourse et il a aussi racheté le joaillier Tiffany. En quatrième, cinquième et sixième place, on retrouve Bill Gates, Mark Zuckerberg et Warren Buffett. Et la femme la plus riche du monde, c'est Françoise Bettencourt-Meyers, c'est l'héritière de L'Oréal. Elle possède 73,6 milliards de dollars.
Et une petite dernière pour la route ?
Oui, un fun fact. En fait, depuis la pandémie, les ventes de McDo ont augmenté de 7,5%. Les ventes sont en hausse aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Chine et au Japon. Par contre, elles ont baissé en France et en Allemagne.
Et pour rappel, la chaîne américaine compte 39 160 restaurants dans le monde.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non !
C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein.
La chatte qui va, la chatte !
Juliette, aujourd'hui tu nous parles sport et surtout d'un gros dossier. La Ligue 1 de foot pourrait repasser à 18 clubs dès la saison 2022-2023.
Oui, et ça n'en est plus au stade de rumeurs. Jeudi, le directeur général de la Ligue de football professionnel, Arnaud Rouget, a réuni des présidents de Ligue 2 et la semaine prochaine, il va réunir les présidents de Ligue 1. Alors il faut savoir que le championnat français est composé aujourd'hui de 20 équipes et ce depuis près de 20 ans. Et là, la LFP qui s'occupe du championnat professionnel, donc de la Ligue 1 et de la Ligue 2, souhaite passer à 18 équipes, voire 16. Mais bon, c'est plutôt 18 pour le moment.
Et pourquoi réduire le nombre d'équipes ?
La raison officielle, c'est que l'UEFA, l'instance européenne, demande un tel changement pour pouvoir lancer sa réforme de la Ligue des Champions en 2024, une réforme qui bloquerait plus de dates dans le calendrier des matchs. Mais en réalité, c'est une affaire de sous. Et les premiers concernés dans l'histoire, c'est Canal+. En fait, la chaîne fait pression pour réduire le championnat car ça permettrait de réduire les droits télé. Et oui, car passer à 18 clubs, ça fait quand même 38 matchs de moins à diffuser.
Et comment ce changement est vu dans le monde du football ?
Franchement, plutôt bien. Tout le monde semble presque sur la même longueur d'onde. Vincent Labrune, le président de la LFP, est pour. La plupart des dirigeants de clubs sont également pour. Écoutez Pablo Longoria, le président de l'OM, au micro de Foot Mercato.
Ça va rendre plus attractif les différents championnats parce que surtout, vous savez, on a parlé maintenant des chiffres économiques quand ils jouent en Europe. Maintenant, la participation étable dans des compétitions européennes, c'est lesquelles que ça permet de faire beaucoup agrandir la situation économique d'un club.
Mais tout ça ne concerne pas uniquement la Ligue 1.
Non, le but c'est de faire passer la Ligue 2 aussi à 18 clubs et de transformer le championnat national en une Ligue 3, elle aussi à 18 équipes. Alors cette Ligue 3 deviendrait professionnelle, mais pour que ça se fasse, il faut que la fédération qui s'occupe aujourd'hui de la nationale confie le championnat à la LFP. C'est quelque chose de possible, mais il faudrait que ce soit validé avant le 30 juin 2021 pour que ça puisse se faire pour la saison 2022-2023.
Et chez les femmes aussi, ça bouge.
Et oui, le football féminin aussi pourrait être réorganisé. La D1, l'équivalent de la Ligue 1, devrait devenir totalement professionnelle à 14 clubs. La D2 passerait à 14 clubs aussi en pool unique. Et la D3 serait plus régionalisée.
Et sinon, côté culture, l'Italie a récupéré plus de 500 000 œuvres d'art volées.
Oui, des œuvres reprises en Italie, mais aussi à l'étranger. Les carabiniers chargés de protéger le patrimoine artistique soulignent que même le Covid n'a pas arrêté les voleurs de beauté. Mais les vols ont quand même baissé de 17%. 17,6% en un an, notamment ceux des institutions publiques comme les bibliothèques, les lieux de culte et les musées.
L'Italie est le pays le plus doté au monde en termes de sites culturels inscrits au patrimoine de l'humanité. Elle en compte 50 contre 39 pour la France.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
Démêler le vrai du faux, surtout pour de futurs journalistes, c'est primordial et pourtant pas toujours évident. Imaginez-vous, lors d'un oral, vous sortez une actu chaude que vous êtes fier d'avoir vu passer. Et maintenant, imaginez votre ressenti lorsque le jury, au sourire narquois, vous répondra « Quelle est votre source ?» parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie info. Dégringolade émotionnelle. Pour vous éviter ce genre de déconvenu, Jordan, on commence par Check News.
Tout à fait, Chloé. Le premier site à conseiller, c'est Check News par le journal Libération. L'avantage, c'est qu'il vous propose 2 à 3 articles par jour qui traitent particulièrement bien des sujets d'actu brûlante. Les journalistes de Check News répondent à des questions parfois insolites posées par les lecteurs, ce qui peut vous apporter des idées d'angles originaux pour de potentiels articles. L'inconvénient, quant à lui, est de taille. Presque tous les articles sont payants, et ce n'est pas fameux pour les étudiants qui, on le sait, galèrent déjà pas mal niveau financier.
J'enchaîne avec Vrai ou Fake, une plateforme de fact-checking de l'ensemble de l'audiovisuel public appartenant à France Info. Aficionados des visuels, ce site est pour vous. Chaque article est associé à une vidéo explicative. Une interrogation sur la dernière interview du ministre de l'économie, foncez, vrai ou fake aura la réponse. Le petit plus, tout est accessible gratuitement.
L'autre site que nous vous conseillons, c'est celui de l'AFP Factuel. L'avantage, c'est que le site est plutôt clair et bien organisé, par région du monde, mais également par rubrique. C'est l'occasion pour vous d'approfondir plus en détail des sujets qui vous intéressent ou qui vous tiennent à cœur, et c'est un gros plus pour les concours. L'autre point positif, c'est qu'il est entièrement gratuit et que les titres des enquêtes répondent déjà à la question posée. L'article développe l'argumentation des journalistes et c'est plutôt cool à lire.
Le dernier, et pas des moindres, ce sont les décodeurs attachés au quotidien Le Monde. Plusieurs rubriques sont disponibles, une pour comprendre, une pour visionner une situation en un graphique, des enquêtes, bref, il y en a pour tous les goûts. Ils sont aussi sur YouTube, pour ceux qui ne jurent que par la vidéo pour les révisions. Enfin, depuis 2017, ce site est associé au moteur de recherche Décodex. Copiez-collez le lien d'un site ou d'un article et vous saurez si cette source est fiable. Pratique, non ?
Vous voilà maintenant munis pour entrer dans la lutte contre les fake news. Un conseil, checkez, checkez et checkez. Encore.
Super récap, merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, mais comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain. Un grand merci à tous les chroniqueurs, à Agatha la technique, bien sûr, et à vous qui nous écoutez. ActuVu est sur Facebook, Twitter, Instagram, donc n'hésitez surtout pas à y faire un petit tour. Et évidemment, on est sur Spotify et Apple Podcast. Sur ce, passez un excellent week-end, on se dit à samedi. Tchuss !